Nous sommes dimanche 17 novembre et vous écoutez un dossier spécial de Proxy Jeux. Lors de notre troisième journée sur le Salon d'Essonne, nous avons la chance d'échanger assez longuement avec Thomas Provost, un des deux gérants de la société Repos Productions. Nous profitons de l'annonce du résultat du concours Rampage pour mettre cette interview en ligne, en remerciant Repos Prod de vous avoir permis de gagner un de leurs jeux. Cet échange ayant été enregistré sur le Salon, la qualité sonore n'est pas au rendez-vous. Je m'en excuse et je vous invite à persévérer dans l'écoute, quitte à faire quelques pauses, car outre la présentation des sorties actuelles et à venir de l'éditeur, nous avons pu recueillir une réflexion très intéressante sur l'état actuel du jeu de société. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la mise en ligne du numéro 50 avec Martin Wittberg, et en attendant, jouez bien. Nous sommes samedi matin et nous sommes sur le stand de Repos Prod.
Rampage. On a des projets déjà sur Rampage après, mais c'est autre chose. Donc, le concept, c'est un jeu de Gaëtan Bojano et Daniel Rivolé. C'est un jeu très très particulier. C'est presque un nouveau langage en fait. L'idée, c'est que les joueurs doivent, par équipe de deux, les joueurs doivent faire deviner aux autres quelque chose. Pas parler. Et la seule façon pour faire deviner des choses, c'est d'utiliser les icônes universelles qu'il y a sur le plateau. La première chose que le joueur doit faire, c'est poser le point concept principal. Par exemple, je le mets sur une figurine d'homme. Et puis après ça, avec des petits cubes, je peux préciser les différentes idées liées à ce personnage. Si je le mets par exemple sur tout ce qui est peinture, peut-être que c'est un peintre. Si je le mets sur l'icône réelle, peut-être un peintre qui existe, etc. Si je mets sur les ciseaux et sur l'oreille, on va arriver à 22. Le truc qui est très fort dans le jeu, c'est que c'est très très simple l'oreille. Les gens peuvent vraiment presque casser des serres. Et ça permet, avec le travail qu'on a fait sur les icônes, c'est Anne qui a travaillé énormément, qui est philosophe de formation chez nous, pour que chaque icône représente bien plusieurs concepts et qu'avec ça, on puisse vraiment faire dominer tout ce qu'on veut. Voilà. L'autre actualité...
Excuse-moi, toi, à qui ça s'adresse? À quel genre de public? Parce que là, en fait, quand je regarde votre gamme de jeux, mm-hmm. comme plutôt casual gamer ou familial, mm-hmm. je pense à Time's Up, je pense à Seven Wonders, qui est quand même assez accessible. Est-ce que c'est pas... Je pose la question de façon tout à fait neutre, est-ce que c'est pas un peu élitiste comme jeu? Est-ce que vous avez pas peur de vous adresser à un public qui est un peu plus...
Non, moi je pense que des... De manière générale, on essaie de faire des jeux et on ne réfléchit pas toujours en termes de public direct. Ce que je pense, c'est qu'un bon jeu bien édité, évidemment ça reste objectif, a toutes ses chances de vendre. Voilà. C'est sûr que concept, et les gens qui vont essayer auront peut-être du mal à leur premier ou deux, premier et deuxième concept. Mais une fois qu'on a rentré dans le jeu, une fois qu'on a compris la logique, il n'y a plus aucun problème. Il faut savoir que les quelques éléments de règles qu'il y a dans le concept sont essentiels. Et les joueurs doivent les suivre. Ça paraît bête, mais si on a bien mis que c'est deux joueurs qui font dîner à l'assemblée, c'est parce que dans une seule tête, il y a pas assez. Il faut être deux pour bien... En fait, il y a une sorte de contrôle direct. C'est-à-dire que si je mets le pion concept au mauvais endroit, ou un endroit qui n'est pas parfait, hop, l'autre joueur peut directement
le remettre
à un autre endroit, etc. On a trois niveaux de difficulté. En fait, on a deux niveaux de difficulté. On a le niveau facile, difficile et challenge.
C'est la mode enfer.
Ça me rappelle un peu
Ghost Story. Voilà.
En mode débutant, t'as du mal.
Voilà. Oubliez l'enfer.
Exactement. Non, mais on a fait énormément de démos de nos jeux. J'ai fait ici à Sony Expo, d'autres partenaires au niveau mondial prennent nos jeux. Et les mecs qui pensent être super forts prennent du rouge ou du noir. Et je leur dis, mais tu peux, mais ça va pas marcher. T'es pas encore assez expérimenté. Et après trois tours, les mecs, on a fait deviner des trucs dingues. Et ça marchait sans problème. Mais il faut juste que les mecs se disent, qu'ils prennent le temps de regarder le plateau, qu'ils utilisent ou pas l'aide de jeu. Moi, je n'utilise pas l'aide de jeu. Parce que je dis aux gens, regardez l'icône et imaginez ce que ça pourrait dire. C'est ça le truc. Une fois que les gens sont rentrés dedans, ça marche parfaitement. Si on fait un parallèle, et qui maintenant qui fonctionne maintenant, c'est que dans la gamme de Time Group, on a trois gammes. Enfin, dans Time Group, on a trois gammes. On a le Time Group Celebrity, l'Académie et le Family. Le Family, c'est celui qu'ils ont le mieux. C'est le plus simple, etc. Et le Celebrity, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y jouer. Parce qu'il faut de la culture, et si tu n'en as pas de la culture, tu dois être vif d'esprit. Je pense que le concept, il faut simplement être vif d'esprit.
C'est une gymnastique.
C'est familial plus pour moi. C'est-à-dire c'est une gymnastique intellectuelle, c'est vraiment un plaisir. Et à mon avis, certains, les gens qui connaissent notre gamme de jeux, sont, enfin, y a pas de, je ne pense pas que c'est utile. Ce qui est très drôle, c'est que c'est tous les gamers qui sont venus chercher une boîte de concept au départ. Et voilà, on verra bien maintenant. On a fait notre mieux sur le jeu, on a travaillé à fond jusqu'au bout. Et maintenant, est-ce qu'il faut faire son public ou pas? J'ai tendance à penser que oui, parce que tous les nos partenaires en distribution l'ont pris ou vont le prendre, et dans des quantités qui sont parfois très impressionnantes. Pour la petite histoire, c'était très drôle, mais l'année passée à Nuremberg, quand on présentait le jeu, il y avait à table des Islandais, des Allemands, des Coréens, des Anglais, je pense. Ils jouaient à concept et les gens trouvaient, et il fallait que le traducteur explique qu'est-ce que c'était. Et donc c'était des mecs qui parlaient à d'autres sans connaître leur langue, qui arrivaient à leur faire trouver des trucs. Et donc là, il y a eu quelque chose vraiment, on était déjà convaincu par le jeu, mais là on s'est dit vraiment, il y a quelque chose de dingue. C'est un party game, contrairement à Time Up, où tu peux jouer avec des gens qui ne parlent pas ta langue.
Et avec, je pense, des âges complètement différents et des horizons différents.
Ouais.
Donc en fait, mon a priori qui était plutôt, c'est un jeu pour des gens un peu... un genre un petit peu élitiste, en fait, c'est pas du tout ça. D'accord.
Je pense pas.
Très bien, très bien. Donc ça, c'est pour concept. Le gros buzz du salon, on voit passer des sacs avec des grosses boîtes vertes partout, c'est Rampage.
Oui, Rampage est un des jeux qu'on a signé il y a maintenant 3 ans, bien avant l'arrivée de King of Tokyo, et qui n'a rien à voir avec King of Tokyo, c'est pas ça. Pas parce que deux jeux ont le même thème que c'est des...
Ouais, ouais, ça a rien.
Le principe de Rampage, c'est que donc, les joueurs sont des monstres et qu'ils sont là pour péter la vie. C'est une sorte de jeu qui fait une énorme blague au jeu en lui-même, puisque le principe des joueurs, c'est qu'ils doivent bouffer des meeples, on est dans Meeple City. Voilà. La force de ce que Ludo et Antoine ont réussi à faire avec ce jeu, c'est de vraiment faire un jeu où c'est un jeu d'action en 3D, où tu fais vraiment le monstre. C'est-à-dire que si tu dois te déplacer, tu ne prends pas un gabarit, tu ne prends pas vos dés, tu enlèves ton corps et tu fais une pichenette dans la vie. Au niveau du développement, évidemment, ça se voit jamais les heures de développement qu'il y a sur le jeu. Ça peut se ressentir, mais inconsciemment. Le truc, c'est que comme les ruines des bâtiments sont collées sur le plateau, donc, si le mec se déplace, il ne sait normalement pas casser les buildings. Pour casser les buildings, il faut qu'il fasse une autre action qui est démolir le building. Comment est-ce qu'on démolit un building? On ne lance pas des dés, pas des cartes. On prend son corps et on le jette sur le bâtiment.
Alors le corps, c'est la pièce.
Chaque monstre en fait est composé de pieds qui sont un petit disque en bois,
ouais.
D'une grosse figurine en bois qui est son corps, d'un paravent où il y a la bouche et les dents du monstre et l'estomac. Il y a quatre parties du corps. Voilà. Et l'idée géniale qui fait tout le buzz et qui donne souffrance directement envie de jouer, c'est le fait que les bâtiments sont composés et la ville est composée de meeples, de tranches de carton, de meeples, de tranches de carton.
Coller les unes aux autres pour que ce soit plus facile à les empiler. C'est ce que c'était la blague d'hier.
Une fois que le meeple tombe, évidemment que le bâtiment s'écroule, tous les meeples sortent et fuient dans la ville. Donc ça, c'est un truc énorme. Après deux actions, le monstre peut manger dans son quartier. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Comment est-ce qu'on a des points de victoire? C'est en mangeant des meeples, mais comme dans la vraie vie, les monstres doivent manger équilibré. On fait un peu de tout. Voilà, ça c'est très important. Il reste quand même deux autres actions. L'autre action, c'est jeter des trucs à la gueule. Qu'est-ce qu'on jette dans meeple? Dans le Rampage, on peut acheter des meeples à la gueule des autres, mais on ne joue pas avec un nouveau truc, c'est mal. Donc on jette des voitures. Il y a quatre voitures dans le jeu, on peut prendre une voiture, on la canarde sur les autres, sur les bâtiments, etc.
Une voiture en bois ou un petit... c'est des figurines en carton?
Les gens font des sandwich live, j'espère qu'on
va faire des
page live. C'est des voitures en bois.
En bois.
On voulait la première ville à l'édifice sur le jeu, c'est qu'on voulait, comme c'est un clin d'œil au monde du jeu de société moderne, à Carcassonne aussi entre autres, etc. Il fallait que ça soit du vrai bois, il fallait pas que ça soit du plastique. La dernière action, c'est cracher des trucs, de l'acide, du feu, etc. Il n'y a pas d'acide du feu dans la boîte. Donc c'est des gens qui vont devoir prendre leur propre souffle et souffler sur le jeu. Donc voilà, c'est complètement crise, complètement dingue. Mais je crois beaucoup plus à des jeux qui ont une idée forte maîtresse. Le mec qui voit un page, il sait qu'il sert pour avoir du fun. Le mec qui vient chercher la stratégie, la haute stratégie, il a compris que c'est pas là qu'il va la trouver. En plus, il y a quand même 2-3 niveaux de difficulté qui restent des niveaux très simples. Les joueurs peuvent avoir des super, un caractère, un pouvoir et un super pouvoir secret, ce qui fait qu'à chaque partie, un peu à la small world, on va incarner un monstre différent. Ça peut vraiment orienter les choix. Il y a moyen de jouer jusqu'à 8 avec 2 boîtes, il y a moyen de jouer en équipe. Et alors pour les gamers, il y a le régime draconien où tous les meeples excédentaires sont des points négatifs. Donc il faut vraiment, vraiment se déplacer dans la ville, aller chercher la blonde qui nous manque, etc. Donc voilà, ça a été vraiment un gros travail en interne, même si le jeu paraît simple, il y a beaucoup de trucs techniques qui ont dû être résolus. Au début c'était un plateau en tissu, les rues n'étaient pas collées, il n'y avait pas de actions partout, les plus ont été des trucs ronds parce qu'il y avait l'action ouverte, la rue était roulée sur le plateau, enfin, il y a plein de choses qui ont été modifiées pour arriver maintenant à un jeu ultra simple, 2 actions et puis on mange.
Tout le travail qui a été fait, qui est complètement invisible, okay. Et qui fait que le jeu tourne. En combien de temps ?
Je pense qu'on n'a pas travaillé 3 ans à temps plein.
Non, alors oui, le développement, mais après la durée de la partie.
La durée de la partie, ça va être entre 25 et 30 minutes.
D'accord.
Ça va dépendre un peu de l'habilité des joueurs, mais ça reste un jeu familial d'ambiance pour les petits et les grands enfants. Faut pas que ça soit plus long. Je préfère que les gens jouent 2 fois une partie que d'avoir une partie qui s'éternise.
Et donc on nous a fait la remarque,
oui.
Vous faites des jeux sexistes.
C'est vrai.
Tu m'as tendu la perche avec on va chercher la blonde. On nous a fait la remarque, il y a des hommes d'affaires, il y a des gros bras, et puis il y a une blonde, la blonde.
La blonde, ben oui, mais c'est un peu il y a tous les clichés.
Ça, c'est ça, c'est ça. C'est le clin d'œil à Godzilla et voilà. Au film.
Il fallait qu'il y ait une blonde dans deux choses. On a déjà mis des blondes dans le
City of War. Ouais, c'est ça.
Donc oui. C'est pas que les femmes croient qu'on les aime pas, on les adore. C'est juste que voilà. Maintenant, si on veut parler de femmes, on va sortir au travail sur la prochaine extension, c'est l'exclu. Mascarade est un très très gros succès, parce qu'on va arriver à 40 000 boîtes en 4 mois, donc c'est très très lourd. Et donc on travaille déjà sur l'extension. Et dans l'extension, il y aura beaucoup de femmes. Parce que pour des raisons d'équilibre des sexes liés à un personnage, on va devoir mettre beaucoup de femmes. Non, moi j'ai pas de problème de mettre des femmes dans les jeux.
Mais alors attention, on met pas de courtisanes, on met pas de. Hein, on met des femmes de pouvoir, hein, parce que sinon.
Ça tombe dans le même travers.
Ça va répondre au problème. Non. Mais je n'ai pas de solution parfaite alors.
C'est la société actuelle. Voilà. On t'a parlé de City of Horror, il y a un développement, il vit avec des extensions.
Oui. Donc l'idée c'est qu'on avait fait un concours de création pour la carte. Et on en a profité pour faire un petit deck de 5 cartes qui est le Director's Cut. On a fait un retirage et on en a profité pour faire 2-3 petites modifications dans le jeu. Les gens qui veulent jouer avec la version 1.1, 1.01, j'en sais plus rien, peuvent télécharger les règles sur notre site.
Parfait.
En gros, ça change uniquement la façon dont le premier joueur se les partage, qui est beaucoup plus simple. Le développement c'est long et à un moment donné il faut l'arrêter.
C'est ça.
Et le problème c'est que le lendemain on a l'idée qu'ils vont monter. Donc voilà. Donc c'est simplement, voilà, maintenant le jeu a déjà une très belle vie, on vient d'arriver maintenant. Et donc pour relancer un petit peu, pour que les mecs veulent
ressortir les boîtes. Hein.
Voilà, il y aura ce qu'ils disent. Pour les gens qui le cherchent, on ne trouvera pas en boutique parce que 5 cartes c'est pas toujours facile à trouver, mais on va ouvrir une boutique en ligne où les gens pourront trouver nos t-shirts, nos goodies, tous les trucs qui par le réseau des boutiques ne peut pas arriver à un prix normal. C'est-à-dire que si on fait une fois 6 ce qu'on fait sur des boîtes, les mecs ne vont pas payer 5 euros ou 6 euros 5 cartes. Quoi. Enfin, ils sont pour Magic, mais on ne fait pas pour les autres aussi.
Ah, il y a peut-être un concept à prendre. Seven Wonders, on a tout. Alors, moi, j'ai une question.
Oui.
J'ai entendu dire que il était prévu que ce soit un arc de cette extension. Et moi, la question, c'est vous qui avez décidé ça ou c'est Antoine qui a la matière pour
Antoine, il nous avait dit qu'il réfléchissait au fil de l'eau. Et
parce que moi, je vous vois en tant que avec le fouet, avec le pauvre Antoine qui.
Pas le fouet, mais c'est comme ça.
Il a du mal à tenir là. Il tient
Alors pourquoi 7?
Parce que c'est beau 7. Ça colle avec le thème, parce que déjà, on savait très bien, d'entrée de jeu, on était convaincus que le jeu serait associé. Et les jeux civilisation, il y a vraiment des choses clés à faire. Voilà. Les leaders, c'était évident, les bas-fonds des sociétés, etc., les cartes un peu intrigues, c'était évident. Il y a d'autres thèmes évidents, les désastres.
Ah oui.
Il y a plein de choses qu'on aimerait bien mettre dans Seven Wonders. On avait déjà, et dans mon fichier Google, j'ai déjà toutes les idées des 7 extensions. Maintenant, c'est pas simple à faire un jeu.
Bah ouais, juste.
Et on a voulu essayer de faire des trucs, on n'y arrive pas toujours. Donc maintenant, Antoine, qui est très très brillant, a deux extensions en travail. Et donc, on sort chaque fois l'extension qui est prête. On y arrivera à cette extension. Mais moi je ne veux pas y arriver à cette extension pour le fait de faire cette extension.
À marche forcée,
j'ai vraiment envie, au niveau intellectuel et créatif, d'arriver à un jeu de base qui est ultra riche et que les gens pourront choisir et changer
enrichir.
Un ou deux facteurs, ouais, en prenant une extension. Mon but, et je pense qu'on va y arriver, c'est d'arriver à faire un jeu qui fonctionne avec cette extension et qui n'est pas une usine à gaz. Que pour quand même des très gros gamers chez Rockfrog, les jeux avec 17 extensions ça marche plus à la fin. Les gens qui ont joué avec Leaders, les gens qui ont joué avec Cities, qui ont joué avec Wonder Pack, il n'y a pas de souci de règles. C'est très simple, ça rallonge un petit peu la note de jeu, etc. Mais en soi, les règles sont expliquées en deux secondes. Il y a des gens qui ne jouent plus qu'avec Cities automatiquement, parce qu'entre expliquer 10 icônes, expliquer 12 icônes, ça change très d'âme. Sur les leaders qui est un peu plus gamer, c'est un peu plus long parce qu'il y a 36 cartes différentes et 36 icônes. Mais une fois que vous connaissez les icônes de leaders, moi j'ai plus envie de jouer à Seven sans leaders et c'est tout. Moi je joue automatiquement, donc j'ajoute au Wonder Pack qui lui est une petite extension. Mais le but est vraiment de garder la pureté, la simplicité du jeu et de changer le paradigme, de vraiment amener les joueurs dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et de changer leur façon de jouer. La prochaine extension qui va sortir, qui s'appelle Babel, est une grosse boîte. Ça va permettre d'avoir dans la gamme des jeux à 10, des extensions à 10, 20, 30 et 40 euros de base. Et ça va être une extension qui contient deux extensions. C'est le tour de Babel, de la tour de Babel. Dans la première extension, les joueurs vont construire Babel, ou en tout cas élire les lois, diriger les lois de Babel. Et la règle est d'une simplicité extrême. Au début, il y a un draft pour les leaders. Et quand vous défaussez une carte, à la place de prendre trois pièces, vous pouvez élire une loi. Le truc, c'est que les lois, c'est pour tout le monde. On est tous liés. Et l'effet durera jusqu'à ce que la loi soit abrogée et remplacée par une autre. Donc clairement, il y aura un peu plus de chaos, il faut que les gens s'en rendent compte. Mais comme les lois sont draftées, on aura une information sur ce qui peut arriver. Et ça change totalement le jeu. C'est très 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 lié, parce qu'on est vraiment malmené. On est obligé d'aller faire des lois parce qu'on est vraiment dans la merde. Si les gens pensaient qu'il y avait une interaction avec City, ils vont voir ce que c'est l'interaction avec la maison. Là, il y a presque de la dipo, enfin pas de la dipo, pas vous mentir, mais il y a vraiment les mecs qui disent qui a fait une bordel pareil, qui a osé mettre des lois pareilles, ou avec le mec qui ricane dans son coin parce qu'il a fait une loi qui en est très fort, ou qui aide tout le monde parce qu'il y a des lois positives aussi. Donc voilà, ça c'est la première partie sur les lois. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on doit ramener des points de victoire aussi. 10, on a fait 3, 5, on a fait 2, etc. Donc, un moyen pour avoir des points de victoire, mais quand on discarde, on n'a plus d'argent. L'autre partie de l'extension, qui peut être jouée avec la première partie, sans problème, ou pas, ça se fait. C'est le principe, c'est que la tour de Babel étant une merveille, à la fin de l'âge, elle sera attaquée aussi, ou pas. Au début de chaque âge, on va révéler une carte des barbares, c'est pas toujours des barbares, ouais, en développement, mais sur laquelle on va mettre un certain nombre de pions. Quand la carte est liée à une couleur, par exemple, si c'est une carte verte, c'est lié à la science. Il y aura deux possibilités. Soit les barbares nous volent une connaissance scientifique, soit on arrive à trouver un accord avec eux et globalement on leur en donne. On met un certain nombre de jetons sur la carte et chaque fois qu'un joueur joue une carte verte, il peut payer un kicker, donc un coût supplémentaire qui est ajouté sur la carte
magique hein.
Pour prendre le token. D'accord. Oui, le kicker, ça vient de Magic. Le principe, c'est qu'à la fin de l'âge, il y a deux solutions. Si il n'y a plus aucun jeton, la guerre ou le conflit est géré par l'ensemble des joueurs. Et tous ceux qui ont vraiment participé ont un avantage. Par contre, dans le cas où il reste des jetons, malgré que certains aient bossé, le conflit est un échec. Et là, tous les joueurs qui n'ont pas de jetons ont un problème. Ceux qui avaient un jeton, bah, ils n'ont pas le problème, c'est leur seul avantage. Le fait de le montrer au début de l'âge nous permet de faire un jeu plus agressif. En cas de défaite, des barbares contre les rebelles, on va pouvoir faire détruire des cartes, casser la ressource principale du plateau, etc. Faire perdre des jetons tokens, etc. Le but, c'est que les joueurs soient invités de nouveau à changer leur stratégie. Si la récompense par rapport aux cartes vertes est très intéressante, donc tu n'as pas encore fait, et que si le conflit ne marche pas, tu vas perdre une carte bleue, ta plus forte, tu vas peut-être y aller. Maintenant, je préférais que tu y ailles, comme ça on va rien perdre. Si toi tu n'y vas pas et toi tu vas pas, j'entends bien que j'y aille, etc. etc. Donc, c'est pas du tout le semi-coopératif, parce que je ne crois pas au semi-coopératif. Mais les joueurs vont devoir vraiment voir la tendance que prend le...
Discuter.
Que prend le...
Encore de la négo, en fait. Encore de la pression sur les autres.
Encore
il faut qu'il y aille, parce que
tu vas devoir gérer le militaire vis-à-vis de tes voisins, voilà. Et en plus le militaire des barbares. Ça va être... Donc, je préfère taper sur les voisins.
Mais bon.
Sachant qu'il y a moyen de gagner la guerre contre les voisins tout en même temps.
Ah ouais.
À chaque âge, il y a différentes cartes, évidemment.
Ah oui.
Et en fonction, c'est pas toujours lié aux mêmes cartes. C'est-à-dire, évidemment, sur l'âge 3, ça sera, le kicker sera lié à des cartes mauves, etc. Enfin, ça pouvait être lié à des cartes mauves, etc.
Donc, tu rajoutes des tours par âge, t'as plus que 7 cartes.
Non,
il faut toujours tout faire dans le temps. Il y a plus d'actions à faire, mais...
Oui et non, c'est-à-dire que les participer à la guerre est un moyen de faire des points de vie. Ou d'avoir des bonus, etc. etc. Non, maintenant évidemment si les gens jouent avec Cities, ils auront un peu plus de temps pour faire des choses. Mais ce qui est génial, c'est que comme c'est des modules qu'on intègre dans le jeu, comme le jeu de base, on a travaillé à fond dessus, qu'il soit complètement stable et rigide, et que ce soit un monolithe qui ne bouge pas, on peut vraiment y intégrer des choses. Donc, sans trop de difficultés. On n'est pas dans un jeu comme Domino ou Thunderstone où faire des extensions c'est très facile, il suffit de faire des nouvelles cartes. Ici, faire des nouvelles cartes dans Seven Wonders c'est un bordel sans nom. Et Cities, qui était la première idée d'Antoine, ça nous a mis 2 ans à faire. Parce que c'était vraiment compliqué, parce que l'équilibre du deck de Seven Wonders, il est vraiment réfléchi, tout est calculé, etc. Et donc rajouter des belles cartes à la volée, c'est pas simple. Donc on est obligé d'intégrer des nouveaux modèles, de nouveaux modules qui interagissent avec le jeu. On a d'autres choses encore, mais ça j'en parlerai quand ça sera
des années. Ouais, c'est là la réflexion que je me suis faite tout à l'heure, c'était qu'il y a quand même la part du travail de l'éditeur. Quand tu nous expliques ça, elle est vraiment palpable. C'est une vraie coopération entre l'auteur et l'éditeur et vous.
C'est la marque de fabrique de la boîte. Les gens de nouveau c'était invisible, les professionnels le savent, les auteurs, etc. le savent. Moi je ne crois pas, l'auteur qui me dit que son jeu est fini, je n'y crois pas. Pour deux raisons. C'est jamais le cas, très très rarement. Et deux, c'est que dans le marché actuel, il y a une pléthore de jeux, il faut vraiment, vraiment donner au jeu toutes ses chances. Et il n'y a pas un jeu chez nous qui n'a pas reçu une très grosse amélioration. Mais attention, on est vraiment. Moi je ne suis pas auteur de jeu, je suis développeur. Et donc, par alchimie avec l'auteur, on va bosser, on fait des allers-retours, au boulot on joue énormément. On essaye vraiment de faire de ce bon produit, de ce bon jeu, parce que si je le produis pas ça choque les gens, mais ça reste ça quand même, on est perdu notre service. Faire le meilleur produit possible, c'est subjectif, on est bien d'accord. Mais ce que je veux, c'est que, on n'a pas le droit à l'échec, même si on a des gros bons besoins, je ne veux pas vous me donner le droit à l'échec. L'autre, c'est qu'il faut que tous les facteurs soient le mieux maîtrisés. Le matériel, ça paraît dingue, mais par exemple dans Mascara, le fait d'avoir fait des grandes cartes, c'est un choix, c'était plus comme ça. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple. Même fait dans Seven Wonders, le fait d'avoir fait des cartes de tarot, je pense que ça a créé un univers. On n'est pas dans un simple jeu de cartes, on est dans Seven Wonders. Les graphismes doivent être travaillés et réfléchis. L'ergonomie doit être travaillée et réfléchie. Le nombre de joueurs, la création, la rédaction des règles, l'envie de rejouer, tout ça sont tous des facteurs qui doivent être travaillés. Le format de la boîte, du
Et sur votre stand, les démonstrateurs savent expliquer les jeux, je suppose.
Tu le fais normalement.
Non, parce que c'est pas, le cas pour tous les jeux du salon.
Chaque année, c'est une catastrophe.
Ils viennent à l'avance. Moi, je ne sais pas du tout sur le stand, parce que je suis tout en réunion.
Ils jouent ?
Ouais, tu les fais jouer avant le salon.
Il faut savoir que là, sur le stand, on est 45.
45.
Mais votre stand, il est énorme. Enfin, je me rappelle, il y a quelques années, quand vous étiez au 8.
C'était le bon temps. Il y avait
le petit stand de Ghost Stories, etc. Voilà. Et maintenant.
On a doublé globalement de se faire chaque année. Mais. Et c'est particulier chez nous, c'est que pour certains jeux, on veut que les animateurs jouent. Ouais. Parce que ici, dans le salon, tout le monde est fatigué. Il y a un bruit incessant et effroyable. Et tout le monde n'est pas des gamers. Et même les gamers quand ils sont fatigués peuvent faire des erreurs de règles. Et ça va très 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 vite. Donc, ouais. Je ne suis pas assuré que les animateurs ne font pas des erreurs de règles. Mais ils sont au moins dans la partie. Ils sont là pour montrer comment le jeu se joue.
Ils ont au moins joué une fois.
Ils nous partiront d'autres peu fois. Mais normalement, ils ont joué. Ils ont réussi à les à l'avance et des choses comme ça. Et on les fait jouer la veille. Mais en fait, vous devez vous rendre compte que nous, on fait énormément de démos pour nos jeux. On en fait une fois. J'ai dit, on fait maintenant, c'est faux. Mais moi, j'ai vu des gens qui jouent à Time's Up d'une manière que vous ne imaginerez jamais. J'ai vu des gens jouer à Pit d'une manière, vous dites, mais c'est pas possible de jouer en faisant un.
Quoi ?
Un, deux, c'est pas comme ça que ça se joue. On peut pas empêcher les gens de jouer comme ils veulent. Mais le but ici, c'est que les gens comprennent directement
comment le jeu, c'est fait.
Quelle est l'idée globale du jeu ? Parce qu'on n'est pas dans la boîte, hélas. Si on était dans la boîte, on aurait encore plus de jeux. Donc on veut vraiment que les premiers acheteurs, que le noyau dur de joueurs intermondiaux, en fait, jouent nos jeux de la manière qu'il faut, qu'ils comprennent directement ce que c'est. Encore un petit aparté, mais on a parfois des boutiques qui disent, on a eu dernièrement des boutiques qui nous disent, vous vendez vos jeux à Essen, etc. Je ne vais pas vous inquiéter, le but c'est que vous vendiez des jeux dans votre boutique après. Ouais. Si on vend nos jeux sur Essen, c'est qu'un stand, ça coûte très 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 cher. 45 personnes, ça coûte très très cher aussi. Donc on a besoin structurellement de vendre des jeux. Mais le but, c'est qu'après Essen, les mecs, ils ont envie de jouer aux jeux de leurs potes. Et que s'ils les ont bien aimés, ils ont envie de jouer avec leurs potes, pour que leurs potes aillent acheter les jeux en boutique. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est les représentants, les premiers en fait qui vont acheter le jeu vont pouvoir le présenter aux autres.
C'est notre passion à le faire.
D'où voilà.
Quand on vient à Essen, on est acharné.
Ils sont machiavéliques, je reprends. Ouais. Oui, d'où l'importance de la première explication de règles et de l'accroche. Vous êtes combien chez Repoprone maintenant ?
On est 12.
Ça monte aussi.
Ça va.
Ça monte aussi. Ça va. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui nous écoutent, ils sont très drivés par le club en général. Et donc, ils n'ont pas toujours la réalité des chiffres et la réalité de ce que je vois. Et donc, ils pensent tous que ce qui fait le marché, c'est les jeux de club en bois, compliqués, etc. C'est complètement faux.
C'est Time's Up.
C'est Time's Up, c'est des choses comme Seven Wonders, c'est des choses comme Blue Stories, comme Cash and Guns, qui ont fait des ventes, en fait, très impressionnantes. Enfin, Blue Stories, on a 50 000 boîtes monde. C'est beaucoup plus que beaucoup de jeux de cube en bois.
Tu parles uniquement de la boîte de base ?
Non, boîte de base, plus
extension.
Ouais. Mais on vend encore en général 6 à 7 000 boîtes de Blue Stories par an. Et pour le coopératif le plus dur du marché. Ouais.
Merci. On en faisait encore une en allant à Essen et sur iPad et bref.
Il y a vraiment moyen de gagner, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il y a vraiment moyen de gagner. Pour la petite information, je ne peux pas perdre en normal ou en débutant, c'est pas possible.
Mais c'est toujours le problème. Comme tu dis, vous avez dû beaucoup tester le jeu, donc à la fin, tu n'arrives plus à te rendre compte du niveau d'un joueur.
Il fait une grosse erreur sur Ghost Stories il y a quelques années.
Enfin, débutant.
C'est comme on développait qu'en interne et qu'on est très 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 gros fans de jeux de coopération. Normalement, le niveau débutant, il n'aurait pas dû exister.
Oui, c'est ce que Antoine nous avait expliqué.
Et on est allé à notre week-end jeu dans une convention qui s'appelle le Bay Goldy depuis 15 ans maintenant. Où il y a quand même de la crème de crème. Il y a vraiment des joueurs qui aiment les parties, mais qui
m'ont pas la carrière.
Et ils sont tous fait déchirer. J'ai dit,
il y a un problème.
Un peu optimiste, il y a la difficulté quand même.
Un point de vie en plus.
Je pense qu'un bon coopératif, c'est un coopératif où on perd. Ce qui ne veut pas dire qu'on perd automatiquement, qu'il n'y a pas moyen de gagner. Je sais d'expérience d'avoir joué avec plein de gens qui aiment les coopératifs. Les coopératifs, les gens viennent à la première partie, ils rangent la boîte dans l'armoire et ils ne jouent plus jamais.
Il faut se remettre la pression pour qu'il y ait la coopération.
Il faut qu'il y ait un challenge. Si tu as l'impression, à tort ou à raison, que dès la première partie, tu as déjà maîtrisé le jeu, ça n'a plus d'intérêt. On n'est pas du tout dans le même paradigme que dans un jeu de stratégie. Le mec qui a gagné sa première partie dans un jeu de stratégie avec des adversaires, il jouera, les autres ils joueront pour gagner. Mais là, si on a l'impression d'avoir trouvé le puzzle, trouvé une martingale, ce qui peut parfois arriver dans certains jeux, ça n'a plus d'intérêt. Tu vas pas rejouer en disant ça va être dur, non. Ce qu'il faut, c'est que tu perdes, tu te remettes, tu perds, tu réussis, tu augmentes les niveaux de difficulté. Tu repères, etc.
Et est-ce que tu crois à la tendance, enfin il y a eu quelques essais, je pense à Terra il y a très longtemps, je pense à Naufragé qui est sorti chez Yellow, au coop, mais pas trop. C'est-à-dire tout le monde gagne, mais il y en a un qui gagne quand même à la fin.
Je crois pas. Ça ne marche jamais.
Merci.
On t'espère un jour quand même que ça sort.
Non mais c'est un Saint Graal, si tu veux. Ça marche, mais je pense que c'est structurellement impossible.
Pour l'avoir essayé moi-même, je suis pas.
Le truc c'est que. Enfin, moi j'y crois pas parce que si je suis un vieux con, si j'ai aucune chance de gagner,
tu vas faire perdre les autres.
C'est sûr. Et c'est très très beau, je suis un ultimate fan de Respublica Romana. Il n'y a rien à faire. S'il y a un mec qui va marcher sur Rome et qui va devenir empereur, bah, moi je vais envoyer tous les cours et on va faire des guerres comiques. Et c'est comme ça, et on ne peut pas empêcher les joueurs de faire ça. Maintenant peut-être qu'il y a un designer qui va réussir à faire ce truc-là. J'aurais tendance à dire que celui que je vois mais qui n'est pas tout à fait un Sony Co-op, c'est Cash and Guns avec le flic, infiltré. Je ne sais pas si ceux qui se souviennent, vous avez qu'à les voir. Et là le principe c'est que le gangster le plus riche gagne la partie, mais parmi les gangsters, il y a un flic. Et le flic peut gagner tout seul. Mais pour ça, il faut vraiment que les gangsters se tirent à la bourre. Mais comme ils n'ont pas une influence directe sur le risque que le flic gagne, ça peut marcher. Mais qu'il arrive, c'est pas le. On ne ressent pas comme un semi.
Ah oui, c'est pas un record.
Ouais. Donc voilà, mais je pense que ça ne marchera pas. Mais j'ai pas joué au naufragé, j'ai joué à Terra et ça ne marche pas.
En termes d'évolution, je vois que tu as des boîtes de prototypes dans ton bureau.
Oui.
C'est le nom du jeu.
Des boîtes à pizza, c'est les seules boîtes à pizza qu'on voit à Essen.
Exactement, on a fait comme ça.
Quel est l'avenir?
Voilà, c'est la blague, on ne voit plus de prototypes sur les boîtes. Mais non, je peux vous les montrer. La première chose, on travaille sur l'extension d'Escarade, mais ça j'en ai parlé. Ça sera probablement pour 2014, mi-2014. Il y a Babel, dont j'ai parlé. Il y a ici un petit jeu que tout le monde connaît.
Nom de code prototype.
Il y a un Cash and Gun.
Un retour.
C'est Cash and Gun, c'est notre deuxième jeu qu'on a signé, ça a 8 ans maintenant.
Ouais.
Et on a envie de lui donner une seconde vie, parce qu'au fond de notre expérience, il y a des petites choses qu'on a envie de changer dans le jeu. On est persuadé que c'est un très très bon jeu, mais il avait plusieurs problèmes. Le premier, c'était son prix, il était à 40 euros. Et un jeu d'ambiance à 40 euros, ça ne marche pas. Il y a beau être aussi bon que le jeu, les gens ne savent pas donner trop.
Pour ça, vous avez découpé les boîtes Time's Up aussi.
Oui.
À l'origine, c'est pareil, c'est une grosse boîte. Hein.
C'est une vidéo d'Asmodel.
Ah ouais.
Voilà, c'était une très très bonne idée. Les dessins de Gérard Mathieu sont excellents, mais sont très français.
Oui.
Donc là, on a trouvé, à mon avis, le meilleur illustrateur qu'on pouvait prendre pour Cash and Guns, c'est John Kovalik, illustrateur de Munch. Voilà. Et en plus, on va faire un. Ça paraît dingue, mais pour avoir fait des démos de Cash and Guns très longtemps, même Cash and Guns c'est compliqué. C'est-à-dire que la carte bang, c'est complexe. L'échange et faire des parts de manière équitable entre les joueurs, c'est complexe. Donc ici, il n'y a plus de bang en tout cas dans la boîte de base. Et l'échange est différent. Il y aura un parrain maintenant. Et après le gunfight, si le parrain est dans le deal, il prendra quelque chose au centre de la table. C'est le suivant dans l'ordre du tour, etc. Sauf qu'il n'y a plus que des billets. Il n'y a pas que des billets. Il y a des billets, il y a des diamants, il y aura des tableaux, il y aura de quoi se guérir, il y aura des balles, etc.
Ah, vous simplifiez d'un côté, puis vous avez un peu plus de richesse de l'autre côté.
Exactement.
Ça sent un peu le City of War, enfin le partage du butin, du coup, est-ce que tu rajoutes en plus?
Oui, non.
T'as un peu... ouais. Il y a plus de butin à se partager.
Il y a plus de butin à se partager, il y a plus de choix. Donc le but, c'est vraiment de nouveau d'être dans un jeu complètement barré en termes de thème, en termes de matériel, vraiment à tout hors norme. Lui donner un seul effet, lui donner le bon prix qu'il mérite et lui donner des illustrations internationales.
En termes de matériel, vous n'avez pas des problèmes avec le type de... C'est toujours des flingues en mousse?
C'est normalement toujours des flingues en EVA, mais je t'avoue que maintenant les normes sur le jeu de société, enfin, Non, il faut le jouer en fait, on est en train de... On faut évoluer avec le temps et donc c'est très très contraignant parce que le législatif a fait une erreur énorme, c'est de considérer que les jeux de société sont des jeux.
D'où la, mention 14 ans et plus sur les boîtes et...
Moi j'ai pas envie de mettre 14 ans et plus sur ma boîte. Parce que Cash and Guns, c'est un jeu familial. Ça paraît dingue, mais c'est pas du tout un jeu violent. Faut que les gens... Enfin, on n'a jamais eu de critique comme quoi le jeu était violent. Parce que c'est un vrai jeu fun. Et le fait de pointer les autres avec un flingue, il y a un tabou. Il ne faut pas faire. Enfin voilà, faut pas être plus quelqu'un. Ça, je ne sais pas encore, c'est Guillaume, qui est notre responsable de production, qui gérera ce genre de problème. C'est ça qui va se déléguer. Normalement, et j'espère, mais ça, c'est pas encore confirmé, que la boîte de base sera directement des 4 à 8 jours. Alors, je regarde que j'ai d'autres choses dont je peux vous parler.
Et puis, t'as pas un Tikal 2 là-bas?
J'ai un Tikal 2, mais c'est pas un Tikal 2.
C'est encore un prototype.
C'est Sinbad, les gens ont peut-être entendu parler.
Oui.
Ouais, ça sortira peut-être pas en 2014.
Antoine Boza.
C'est un jeu d'Antoine qu'on va faire avec Matago. C'est un jeu qui est clairement dans l'air du temps, parce que c'est un jeu de coopération narratif, en partie. C'est très très chouette, il y a des idées fortes. Et on avance dessus. Maintenant, on va faire une comparaison qui est un petit peu beaucoup du Connect. C'est que chez Robopon, on sort les jeux quand ils sont prêts.
Ça crampage a pris 3 ans.
Voilà. Et aussi parfois parce qu'on est en retard. Mais il n'y a pas d'urgence dans le marché. Les gens, c'est pas parce qu'il y a un jeu sur le même style, un jeu identique, ça pose des problèmes. On s'en fout. Le jeu, s'il sort et qu'il est fort à ce moment-là, il a toutes ses chances. On ne va pas sortir un jeu pour être pressé sur tout.
Non. Très bien. Et au niveau du salon, les échos que tu as, est-ce que le salon d'Essen 2013, tu as entendu des bonnes choses, des choses que tu veux aller voir, même si je pense que tu n'as pas beaucoup de temps de le faire.
Non, j'ai pas beaucoup de temps de le faire. Moi, je pense que le marché allemand, les éditeurs allemands sont en train de s'enfoncer petit à petit dans leur spirale. Et une des premières boîtes que j'ai acheté, c'est Caverna, qui sort de Capitaine Comte, etc. En français chez Philadelphia, qui est une boîte à 50 euros avec 300 pièces, 29 punch, 200 000 règles.
4 kilos.
Je pense que la quadrature du cercle est atteinte. Là, je vais y jouer avec plaisir et je pense que je vais bien. Mais il faut arrêter, je pense qu'il n'y a pas de marché pour ça. Et donc, depuis de nombreuses années, le marché allemand fait la même chose, il copie son voisin, fait des jeux plus en bois, des jeux comptables, etc. Et finalement, en fait, ils ont tué leur propre public. Ce que je pense, c'est que le jury du Spiel, depuis de longues années, donne des gros indicateurs aux jeunes.
Oui, carrément.
Et cette année, ils ont fait ce qu'ils devaient faire depuis plusieurs années, c'est de dire aux gens, on joue pas que pour la victoire. Cette année, les deux jeux sont des jeux coopératifs. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coup? Dans le coopératif, c'est le plaisir de jouer. Et le plaisir, pas spécialement de gagner tout seul, vraiment le plaisir de gagner en groupe, et le plaisir de jeu est recentré. C'est un message très 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 fort que je veux donner au public allemand et aux éditeurs allemands. Le fait de donner le prix à un ami qui est un excellent jeu, et qui est un jeu à 8 euros en Allemagne, c'est vraiment pour dire aux éditeurs allemands et mondiaux, arrêtez de faire des plans sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est. Arrêtez de faire des boîtes à 40 euros avec ce type standard de jeu. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des jeux, des bons, des novateurs. Et on trouvera le meilleur jeu qu'on pense, celui qui est le meilleur ambassadeur ou le meilleur représentant du jeu à l'heure actuelle. À l'époque de Dixit, les gens ne penseraient pas qu'un jeu de cartes pourrait gagner. Ouais. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est dans le business. J'ai toujours dit, moi j'étais convaincu que je risque de mon prix à celui qui fait. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, un prix ne peut pas gagner parce que c'est un petit jeu de cartes.
Qu'est-ce qu'on a pensé?
On s'en fout.
C'est ça.
On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est de donner un jeu. Au jeu, le meilleur de manière constitutive. Le jury est souverain, il fait ses choix. Et je pense qu'il est vraiment très compétent.
Très bien. Alors, je vais quand même, parce que je voudrais un nom de jeu, ton jeu du moment. Que ce soit un jeu d'Essen ou un jeu de... À quoi tu joues en ce moment?
J'en ai deux. Le premier, c'est le jeu de cartes Star Wars, qui est fait par Eric Land, JFFG.
Eric Lang, va pas voir Station and... c'est quoi Train Station,
Station. No.
Parce que là, c'était vraiment pour manger, mais... il a fait des super trucs.
Il a fait des super trucs.
Donc Star Wars.
Star Wars, jeu de cartes, moi je trouve que... Moi, je suis un vieux con de Star Wars, donc pour moi, il n'y a que 4, 5, 6 qui existent.
Oui, t'as fait peur, c'est cool.
Et donc là, c'est vraiment bien. Là, je trouve que le système des cartes qui ont double utilisation dans le jeu d'avantage et sur le terrain, ça marche vraiment bien. Donc l'esprit de ce truc-là, ou l'esprit de l'empereur, etc. C'est très 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 bien. Je suis un joueur de Magic, mais je ne suis pas un magiqueur. Donc moi ce que j'aimais bien pour ceux qui connaissent, c'était jouer avec l'Italie, avec Fallen Empire, c'est des trucs chouettes.
Mais j'ai jamais fait un truc qui marche pas.
C'est ça qui était bien. Et donc j'en trouve vraiment le plaisir de faire des decks différents, mais t'as des decks qui déchirent. Donc ça c'est vraiment agréable. Et l'autre, ça j'invite tout le monde à aller jouer, c'est Avalon. C'est un jeu que chez Indie Board Game.
Ouais, c'est la résistance.
C'est résistance à son dos. Et de tous les loups-garous-like, c'est juste de la balle en fait. Parce que l'idée, pour ceux qui connaissent résistance, donc de toute façon c'est comme un loup-garou, il y a des gentils, il y a des méchants. L'idée forte d'Avalon, c'est que parmi les gentils, il y a Merlin. Et Merlin, au début de la partie, il sait qui sont tous les méchants. Donc c'est facile, les gentils ont gagné. Mais non, parce qu'il y a tout un système de quêtes, etc. Les gens iront voir, mais à la fin de la partie, si les gentils ont gagné, les méchants se révèlent, et s'ils trouvent Merlin, ils ont gagné. Et donc ça fait du bluff contre bluff, etc. C'est vraiment d'une subtilité extrême. Il n'y a pas de joueurs éliminés, il y a des vrais débats logiques, des vraies analyses. On doit revenir dans le temps pour se dire, mais au deuxième tour, t'avais voté pour ou contre ce gros salaud. Et les mecs peuvent mentir là-dessus, et donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Et puis je vais en ajouter un troisième parce que je suis très bavard. Et il y a un petit jeu qui s'appelle Wink.
Oui.
Et Wink est vraiment pas assez connu, c'est un petit jeu de clin d'œil. C'est le meilleur games qui a jamais été fait. Et je pense que tout le monde doit se ruer sur la boîte parce que c'est simple, ça marche avec tous les publics et c'est vraiment vraiment hilarant.
Ok, très bien. Tu...
Merci Thomas.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super intéressant, autant sur pour un peu ce que vous aviez, que pour ton analyse. Merci, à très bientôt.
À bientôt. Ha ha ha!